Chapitre 2. Le nouveau rocher. Tard cette nuit-là, Guetteur de lune s'éveilla soudain. Fatigué par les efforts du jour, il avait dormi plus profondément qu'à l'accoutumée. Pourtant, au premier et infime grattement qu'il perçut dans la vallée, il fut instantanément en alerte. Il se redressa dans l'obscurité fétide de la caverne et sonda la nuit. La peur s'infiltra en lui. Jamais il n'avait entendu un tel son. Pourtant, il avait presque deux fois l'âge que n'importe quel membre de sa race pouvait espérer atteindre. Les grands chats approchaient en silence, et seul le craquement occasionnel d'une brindille ou un éboulis pouvait les trahir. Mais le bruit que percevait Guetteur de lune était comme un broiement continu qui se faisait plus fort d'instant en instant. On eût dit que quelque énorme animal se déplaçait dans la nuit, sans essayer de se dissimuler, et en ignorant tous les obstacles. Guetteur de lune reconnut le bruit d'un buisson déraciné. Les éléphants et les dinotaires arrachaient parfois les buissons, mais d'ordinaire, ils se déplaçaient aussi silencieusement que les félins. Il y eut alors un son que Guetteur de lune n'aurait pu identifier, car jamais nul ne l'avait entendu dans toute l'histoire du monde. Le claquement du métal contre la pierre. Et lorsque Guetteur de lune entraîna la tribu vers le ruisseau dans la clarté du matin, il se trouva devant le nouveau rocher. Il avait presque oublié ses effrois de la nuit, car après les premiers bruits, il ne s'était plus rien produit. Aussi n'associa-t-il même pas cette chose étrange avec le danger ou la peur. Après tout, il n'y avait en elle rien d'inquiétant. C'était un bloc rectangulaire, trois fois haut comme Guetteur de lune, mais assez étroit pour qu'il pût l'étreindre. Il était fait de quelques matériaux absolument transparents, et il n'était vraiment visible que lorsque le soleil luisait sur ses arêtes. Guetteur de lune n'avait jamais vu de glace ni d'eau claire, et il ne pouvait comparer la chose à aucun objet naturel. Elle était plutôt attirante, et bien qu'il manifestât une sage méfiance envers tout ce qui était nouveau, il tendit la main et rencontra une surface froide et lisse. Après quelques minutes d'intense réflexion, il en arriva à une explication brillante. La chose était un rocher qui avait dû pousser pendant la nuit. Beaucoup de plantes apparaissaient ainsi, des choses blanches et charnues, pareilles à des cailloux, qui semblaient surgir du sol en l'espace d'une nuit. Bien sûr, elles étaient petites et rondes, alors que cette chose était haute, avec des arêtes aiguës, mais plus tard, des philosophes plus importants que Guetteur de lune affronteraient d'aussi troublantes exceptions à leur théorie. Ce remarquable exemple de réflexion abstraite conduisit Guetteur de lune, après 3 ou 4 minutes, à une déduction qu'il entreprit de vérifier sur le champ. Les choses plantes blanches et rondes étaient bonnes à manger, quoique certaines d'entre elles fussent parfois la cause de douleurs violentes. Cette nouvelle chose, peut-être? Quand il l'eut léchée et mordillée plusieurs fois, Guetteur de lune perdit ses illusions. Il n'y avait rien de comestible là-dedans. Aussi, en bonhomme singe, poursuivit-il sa route vers le ruisseau, oubliant complètement le monolithe de cristal, tandis que, comme chaque jour, il hurlait après les autres. Ce fut une mauvaise journée. La tribu dut s'éloigner de plusieurs milles, et l'une des femelles les plus frêles s'évanouit dans la terrible chaleur de midi, loin de tout refuge possible. Ses compagnons se rassemblèrent autour d'elle, gémissant et grognant en signe de sympathie, mais sans pouvoir rien faire. S'ils avaient été moins épuisés, ils auraient pu l'emporter avec eux, mais ils n'avaient pas assez d'énergie pour de tels actes de bonté. Ils abandonnèrent la femelle à son sort. Lorsqu'ils repassèrent au même endroit, le soir, sur le chemin du retour, ils ne retrouvèrent pas un os. Dans l'ultime clarté du jour, jetant des regards anxieux autour d'eux, ils burent en toute hâte et remontèrent vers les cavernes. Ils étaient encore à plus de 100 mètres du nouveau rocher, quand le son se fit entendre. Il était à peine audible, mais ils se figèrent sur place, la mâchoire pendante. la vibration qui émanait du cristal se répétait sur un mode obsédant, hypnotisant tous ceux qui approchaient. Pour la première fois, un son rythmé retentissait sur l'Afrique. Il ne s'en ferait plus entendre avant 3 millions d'années. La pulsation devint plus forte, plus insistante. Les hommes-singes se mirent en marche comme des somnambules. Parfois, ils esquissaient des pas de danse, comme si leur sang répondait à des rythmes que leurs descendants ne créeraient pas avant bien des siècles. Subjugués, ils se groupèrent autour du monolithe, oubliant les souffrances de la journée, les périls du crépuscule et la faim qui leur tenaillait le ventre. Le battement se fit plus intense, la nuit plus dense. Et comme s'étendaient les ombres, comme refluait la lumière, le cristal se mit à luire. Tout d'abord, il perdit sa transparence et une luminescence pâle et laiteuse se diffusa à l'intérieur. Des formes fantomatiques, envoûtantes et floues, jouèrent dans ses profondeurs et à sa surface. Elles se fondirent en barres de lumière et d'ombre avant de former des motifs enchevêtrés qui, lentement, commencèrent à tourner sur eux-mêmes. Et comme le rythme s'accélérait, les roues de lumière le suivirent de plus en plus vite. Totalement hypnotisés, à présent, les hommes-singes assistaient bouche bée au stupéfiant ballet de lumière. Déjà, ils avaient oublié leur instinct et les leçons de toute une vie. Jamais un seul d'entre eux ne serait resté loin des cavernes à une heure aussi avancée. Dans les buissons alentour, les créatures de la nuit observaient, attendaient. Les roues de lumière commençaient à se confondre et les rayons fusionnaient en raies lumineuses qui s'éloignaient lentement en tournant sur leur axe. Elles se séparaient deux par deux. Et les faisceaux de lignes qui se formaient alors commençaient à osciller tandis que se modifiait lentement leur angle d'intersection. De fantastiques formes géométriques naissaient et mouraient, tandis que se formaient et se scindaient les scintillants réseaux sous le regard des hommes-singes fascinés, prisonniers du cristal de lumière. Ils ne pouvaient savoir que leur esprit était sondé, leur corps examiné, leurs réactions étudiées et leur potentiel évalué. La tribu tout entière resta encore longtemps prostrée en un tableau immobile, comme pétrifiée. Puis, l'homme-singe qui se trouvait le plus proche du monolithe reprit vie, soudain. Il ne changea pas de position, mais son corps perdit sa rigidité et s'anima comme une marionnette mue par des fils invisibles. La tête tourna de droite à gauche. La bouche s'ouvrit et se referma. Les mains se joignirent, s'ouvrirent. Puis il se pencha en avant, arracha un long brin d'herbe et essaya de former un nœud de ses doigts maladroits. On eût dit un être possédé, luttant contre l'esprit ou le démon qui contrôlait son corps. Il avait du mal à respirer et ses yeux étaient pleins de terreur, tandis qu'il s'efforçait de faire exécuter à ses doigts des gestes nouveaux. Mais il ne réussit qu'à briser le brin d'herbe et, comme les débris retombaient doucement vers le sol, la puissance qui le dominait reflua et, à nouveau, il fut immobile. Un nouvel homme-singe s'éveilla et fit les mêmes gestes. Il était plus jeune, plus adaptable. Il réussit là où son aîné avait échoué. Sur la planète Terre, le premier nœud fut noué. D'autres firent des choses bien plus étranges. Certains, tendant les mains, essayèrent de joindre les doigts, d'abord les yeux ouverts, puis avec un œil fermé. D'autres contemplèrent au sein du cristal des figures qui se divisaient sans cesse jusqu'à ce que les lignes se fondent en une brume grise. Et tous percevaient des sons isolés et purs, de différentes intensités, qui descendaient rapidement au-dessous du seuil d'audibilité. Quand vint le tour de guetteur de lune, il ne ressentit qu'une peur légère. Il était surtout contrarié de voir ses muscles et ses membres obéir à des ordres qui ne venaient pas de lui. Sans savoir pourquoi, il se baissa et ramassa une petite pierre. En se redressant, il vit qu'une image nouvelle s'était formée dans le cristal. les réseaux et les figures mouvantes avaient disparu, remplacés par une série de cercles concentriques entourant un petit disque noir. Obéissant aux ordres silencieux qui parvenaient à son cerveau, il lança la pierre d'un geste maladroit et manqua la cible de plusieurs centimètres. « Encore !» fit la voix dans sa tête. Il chercha autour de lui, trouva une autre pierre, la lança. Le monolithe fit entendre un son cristallin. Au quatrième essai, il ne manqua le disque noir au centre que de quelques centimètres. Une sensation de plaisir quasi sexuel envahit son esprit. Puis le contrôle se relâcha. Il ne ressentit plus aucune impulsion et se contenta de demeurer immobile et d'attendre. L'un après l'autre, les membres de la tribu étaient possédés. Certains réussissaient, mais la plupart échouaient dans les tâches qui leur étaient assignées. Selon le cas, ils éprouvaient ensuite un spasme de plaisir ou de douleur. À présent, une clarté uniforme avait envahi le grand bloc qui se détachait comme un rectangle de lumière sur le fond noir de la nuit. Les hommes singes secouèrent la tête comme au sortir du sommeil, et ils reprirent leur marche vers les cavernes sans jeter un regard en arrière, ni s'interroger sur l'étrange lumière qui les guidait vers leur demeure, et par-delà un avenir encore inconnu, vers les étoiles.